les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Moustapha Benfodil, bonsoir. Prenez un micro, je vous en prie.
Bonsoir, bien.
Très heureux de vous avoir ici à Montevideo, dans, oui, dans cette émission. Je vous présente très rapidement Moustapha Benfodil. Vous êtes auteur de dernièrement deux livres ici aux éditions Aldinte, Le point de vue de la mort, archéologie du chaos amoureux. Vous avez écrit de nombreuses pièces de théâtre et vous êtes également journaliste au quotidien El Vatan. En faisant quelques recherches, j'ai eu l'occasion de découvrir que dans votre travail poétique, vous avez été marqué par un moment, un événement qui a sans doute joué dans votre écriture, qui a été en 1993 l'assassinat de Tahar Djaout. Mm-hmm. Peut-être nous dire comment cet assassinat de ce poète il était d'ailleurs aussi journaliste. Et comment donc cet assassinat a modifié votre écriture ?
Je dirais que c'est un assassinat fondateur dans la mesure où, aussi absurde que cela puisse paraître, c'est une forme d'hommage. C'est un hommage par l'absurde. On s'est toujours posé la question à quoi servent les littératrons ou les littérateurs ? Et là, vous avez la réponse. Vous flinguez un écrivain, ça veut dire que quelque part, sa parole a porté.
Parlez bien près du micro.
Et pour moi, c'est. Moi qui me suis toujours. Parce que moi, disons, dans mon cheminement, dans ma généalogie, je viens des mathématiques, je viens de l'astronomie. Je suis venu un peu à la poésie pour peut-être rechercher d'autres manières, disons, d'être au monde. Et là, j'avais une forme de réponse. C'était, je le rappelle, dans un contexte où on était confronté à un grand récit qui est l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique. Et puis, au-delà de ça, il y avait un grand problème de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va foutre de l'indépendance ? C'est-à-dire, on s'est toujours posé la question en Algérie, et aujourd'hui encore on se la pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce pays-là. Et il y a eu en gros deux grands récits qui sont toujours confrontés, c'est un récit gauchisant et puis un récit islamiste. Et Djaout, il s'est retrouvé pile poil entre les deux. Et puis lui, je pense que c'est quelqu'un qui a. D'ailleurs, je souligne que cette année, on célèbre les 20 ans de sa mort. Donc c'est quelqu'un qui a justement peut-être trouvé la formule, c'est-à-dire une poésie qui n'est pas de scrupules pour s'impliquer. Et dans ce sens, je peux dire que pour moi, c'est une forme de sémaphore, parce que nous, on a peut-être d'autres questionnements, c'est-à-dire là où en France, on se pose des questions par rapport à l'inventivité de la langue, par rapport à ce que signifie être poète, par rapport au pouvoir, par rapport au marché, par rapport à. Et disons qu'en Algérie, la question même de la poésie, elle a été quelque chose peut-être qui passait pour superflu, pour une histoire peut-être qui était totalement anodine. Et l'assassinat de Djaout, brutalement, il a peut-être d'une certaine façon légitimé l'acte poétique. En disant que le poète, c'est aussi de l'action, ce n'est pas que du dire, ce n'est pas que du blabla. Voilà. Et moi, c'est dans ce sens peut-être que ça a déclenché chez moi quelque chose. Bon, j'avais, disons techniquement, j'avais commis entre guillemets un texte qui s'appelait « À la santé de la République ». C'est un texte, je peux le dire, qui était engagé. Mais je dois aussi dire qu'il n'y a pas eu que Djaout. C'est-à-dire, Djaout, il s'inscrit dans un mouvement dont je me réclame, qui est celui de dire si je dois me tromper, je préfère me tromper esthétiquement que politiquement.
Il était, comme je le disais, poète et journaliste, et je crois que c'est une dualité complexe aussi pour vous, journaliste et poète.
C'est un conflit permanent. C'est un conflit. Ce n'est que dernièrement que j'arrive justement à travers, par exemple, ce texte, Le point de vue de la mort, où à la base c'est une enquête, donc deux journalistes. Parce que journaliste pour moi, ça m'a toujours posé problème, pour moi, journaliste, parce qu'il y a l'individu journaliste, il y a le système. L'individu, il peut être porteur d'une forme de révolution, mais le système m'a toujours emmerdé.
Vous dites, il vous est arrivé de dire qu'en tant que journaliste, finalement, vous avez un rapport politique plus militant en tant que journaliste, alors que la littérature, c'est davantage un reportage du dedans.
Du dedans, oui.
C'est un peu comme ça que vous...
C'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de conflit. Par exemple, il y a le conflit de la langue, déjà. Parce que là où les journalistes, ils sont sommés de nommer le monde, en s'astreignant une forme de rapport militaire signifiant-signifié, le poète, lui, il va précisément... casser ce rapport, essayer de placer, de faire passer d'autres niveaux de réalité. Et puis il y a le rapport au pouvoir et le rapport aussi à la liberté. Et moi je ne suis parti là-dedans que précisément pour essayer de détourner ces espaces médiatiques qui sont des espaces de pouvoir pour peut-être faire passer ce que j'appellerais une parole populaire. Donc c'est pour moi, c'est à ce prix-là, justement, que la carte de presse peut agir. Sinon, ça devient juste un privilège. Et en tant que position de pouvoir, moi, ça me gêne un petit peu. Voilà.
Le point de vue de la mort, c'est aussi un livre qui réconcilie le poète et et le journaliste.
C'est-à-dire que dans tout mon travail, il y a toujours une partie documentaire. Et pour moi, justement, le journalisme, c'est peut-être voilà, c'est un très bon canal justement pour accéder à cette matière-là, ce matériau. Mais à charge pour moi de faire de ce matériau justement quelque chose qui ne s'arrête pas à l'inventaire et qui propose des formes d'émancipation, des formes de transgression, de subversion par l'écriture précisément. C'est là où l'enjeu de l'écriture devient important et que l'écriture... fabrique ses propres outils de pensée et ses propres instruments de libération.
Sur le point de vue de la mort, peut-être il faudrait préciser, hein, ça se situe dans une sorte de ville imaginaire qui s'intitule Balbala, mais le titre n'est que le côté imaginaire, disons, de cette ville n'est uniquement anecdotique, car il s'agit aussi d'une critique réelle de la société, puisqu'il s'agit aussi de tout un contexte où il y a une sorte de révolte très forte à l'égard de la part de ceux qui n'ont pas accès au travail. Et cette révolte finit par cette phrase « J'ai allumé mon corps pour le regarder vivre
». Oui, « J'ai allumé mon corps », c'est un hommage à René Char, « J'ai allumé toutes les forêts pour le regarder vivre ». En fait, à l'origine, c'était un texte poétique qui s'intitulait « Indigné » avec un slash au milieu, parce que on disait, surtout il y a eu même des imams, donc des religieux, qui disaient si vous vous immolez, vous irez en enfer, on les culpabilise, on fait passer ces gens-là pour des écervelés, pour des dépressifs. Et moi, je voulais justement leur rendre leur dignité en disant « c'est d'abord un acte d'indignation ». Et dans ce texte, en fait, il y a deux mouvements incarnés par deux personnages qui sont d'apparence assez contradictoires. Il y a un type qui s'appelle Moussa, qui est morguiste donc dans un hôpital, et qui s'est voué à rendre aux morts leur dignité. Et puis il y a un autre qui est, un activiste, il s'appelle Aziz. Et moi, je voulais, à travers ces deux portraits, restituer quelque chose qui est de l'ordre de la lutte, même quand elle n'est pas encadrée et encartée et spectaculaire. C'est-à-dire à travers le personnage, par exemple, de Moussa, qui lui, il s'est retiré du monde et qui s'est voué à rendre leur dignité aux morts. Moi, je trouve dans ce personnage la parfaite incarnation de tout un pan de ce que j'appellerais, que ce soit en Algérie ou dans le monde arabe, les militants du quotidien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont faire du discours, mais c'est des gens qui agissent loin des médias, qui agissent d'une manière peut-être... assez discrète, mais qui au quotidien sont en train de résister. Donc pour moi, il était important de relever justement ce type d'engagement.
J'ai cru comprendre aussi, ou j'ai cru savoir aussi, que vous aviez fait l'objet d'une censure lors d'une exposition.
Oui, effectivement.
Peut-être vous pouvez nous parler un peu de ce.
Vous êtes vachement bien renseigné. Oui, c'était en fait un travail que j'avais fait. C'était à la Biennale d'art contemporain de Chalja. Je trouve que j'ai été invité pour monter une installation dans cette biennale. Et puis, la direction, on va dire, en gros, entre les curators, la direction artistique et les détenteurs du pouvoir politique, il y a eu un clash. Parce que la direction artistique, elle adhérait complètement à ma proposition qui était en fait de montrer un petit pan de mon travail qui est relatif à, on va dire, qui fait écho à ce qui se passait à l'époque dans le monde arabe. Parce que je rappelle, c'était en mars 2011, voilà, il y avait Ben Ali qui était tombé, il y avait Moubarak qui était tombé. Donc pour moi, il était impensable que j'aille là-bas et que je ne parle pas de ça. Donc c'est un travail qui fait totalement écho à ça. Et puis, on va dire, l'émirat de Sharjah, il a très très mal pris cette prise de position. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de carrément d'enlever cette installation. Je rappelle, c'est une installation qui est une parodie de match de foot avec des mannequins sans tête. Et les mannequins sans tête faisaient un peu référence à la guerre civile en Algérie. Voilà.
Vous aviez également, Mustapha, réalisé une pièce qui s'intitule Indigné.
Ben, c'est le point de vue de la mort, en fait. Indigné, c'est le titre du spectacle. Mais c'est, j'ai écrit une dizaine de pièces. Et Indigné, c'est une adaptation, on va dire, du livre Le point de vue de la mort.
Vous avez participé au numéro 36 de la revue Ligne qui avait pour titre « Monde arabe, rêve, révolte, révolution ».
Vous êtes très bien renseigné encore une fois.
C'est mon travail.
Ouais.
Alors aujourd'hui, monde arabe, rêve, révolte ou révolution ?
Ben, la révolution pour moi c'est une construction, donc il serait vraiment naïf et illusoire de croire qu'on fait le job une seule fois après le processus... se poursuit tout seul. Il y a deux séquences importantes dans n'importe quel mouvement de cette ampleur, c'est mouvement de destruction et mouvement de construction. Donc, la destruction a été un moment paroxystique de soulèvement par rapport aux structures politiques, sociales, économiques qui étaient à l'œuvre. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il s'agit de les remplacer par d'autres structures. Et donc, je pense que ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, dans une moindre mesure en Libye, et à peu près de cet ordre-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des dynamiques qui sont engagées depuis longtemps dans d'autres sociétés de la région, et que ce n'est pas parce que ce n'est pas spectaculaire qu'il ne se passe rien. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie, où... ces jours-ci, on va commémorer le 25e anniversaire des événements d'octobre. Octobre, c'était de très très grosses émeutes, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Al Jazeera, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc, moi, si je bosse aujourd'hui dans un journal où je peux taper sur Boutef, où je peux taper sur l'armée ou sur les services spéciaux, c'est grâce à ces révoltes-là. Donc après, je pense au niveau sémantique, c'est le temps qu'il dira, et puis... moi, je dis juste que ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif. Donc, disons, je ne cède pas à l'euphorie. Je sais qu'il y a du boulot. Mais en même temps, je dis que quand même, on a franchi un palier.
Moustapha Benfeddi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir peur de la représentation ?
À titre personnel, je peux déjà témoigner qu'il y a une forme d'angoisse qui s'empare... des pouvoirs politiques. J'ouvre une parenthèse pour dire, si j'insiste sur le politique, c'est uniquement parce que c'est lui qui me cherche. Je n'en fais pas une obsession comme ça gratuite. Je vous donne juste une info. Moi, je suis auteur de plus de 10 pièces de théâtre. Aucune de mes pièces n'est jouée en Algérie. C'est pour dire que selon les espaces dans lesquels on se trouve, selon les sociétés, il y a évidemment des formes de peur de la représentation, parce que dans la représentation, il y a projection, c'est-à-dire qu'est-ce que ça projette, quelle est l'image que ça restitue de nous. Il semblerait qu'il y ait des sociétés, des groupes sociaux dans un pays ou un autre qui sont emmerdés peut-être par ces images-là que leur envoient les artistes. Et pour parler spécifiquement de l'Algérie, je cite juste un petit témoignage. Étant donc blacklisté, En 2009, j'ai lancé un concept qui s'appelait Pièces détachées, lecture sauvage, qui consistait en fait à c'était pas des représentations, mais juste à donner, à entendre mes textes. Et ça se faisait dans des espaces qui n'étaient pas estampillés culturels. C'est pour ça que j'appelais ça lecture sauvage, c'est comme une grève sauvage. Et à chaque fois, dans le public, j'avais des flics. Et souvent, je me retrouvais au commissariat pour m'expliquer sur ce que racontaient mes pièces. Et donc là, on n'est même pas dans une représentation en règle, et même avec ça, ça leur a posé problème. Et c'est pour dire que il y a peut-être au niveau justement du pouvoir politique une forme, comme je disais tout à l'heure, de reconnaissance au pouvoir de l'art. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'hommage par l'absurde. Quelque part, oui, c'est vrai que on n'est pas dans le confort, on est carrément dans la précarité la plus totale. Mais quelque part, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça me pousse à chercher pas seulement des espaces alternatifs, mais aussi peut-être moi-même à me remettre en question, dans le sens où je me pose toujours la question, à quoi sert l'artiste ?
Ça me fait penser à cette phrase très étonnante de Sartre qui disait que pendant l'occupation, nous n'avons jamais été aussi libres.
Absolument. Oui, mais c'est une forme de liberté. Parce que disons que si j'étais dans le confort absolu, peut-être que je verserais dans une forme de paresse. Et moi, justement, ça me tient en éveil. Après, je n'ai pas du tout envie de verser dans la victimisation. Ça, je tiens à le souligner. C'est pas du tout dans ce registre-là que je m'inscris. Je dis juste que ce sont autant de challenges. Nous sommes déjà assez emmerdés de faire du beau avec du laid. Si en plus de ça, on doit changer le monde, ma foi, mais qu'est-ce qu'on ne nous demanderait pas de plus ?
Moustapha Ben Fodil, l'ironie dans votre écriture est très présente, que ce soit le point de vue de la mort ou l'archéologie du chaos amoureux. Quelle fonction joue l'ironie ? C'est pareil, une fonction critique ?
Il y a de la distanciation, mais je dirais d'abord que c'est un travail de plagiaire, c'est-à-dire je plagie en fait les miens, je plagie le peuple. Moi, je passe mon temps à recueillir des paroles sur le vif, je les enregistre, et parce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans mon travail. Et puis je dirais que l'ironie, c'est aussi une forme d'humanisation ou de réhumanisation, parce que les gens qui ont de l'humour, en général, ils ont quand même de la sympathie. Donc c'est une manière de restituer un petit peu de sa sympathie à un monde qui est assez cruel quand même. Et puis c'est une forme aussi de revanche, de vengeance. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sadisme. C'est-à-dire, après c'est des niveaux de cruauté, mais je pense que... Parce que dans mon écriture, par exemple, il y a toujours ce couple-là, c'est-à-dire ironie et violence. Et je dis que l'ironie répare la violence, c'est-à-dire c'est peut-être une forme de baume. Important, justement, pour accéder à cette matière-là, et que l'écriture qui ne s'arrête pas de transgression, des formes d'émancipation à l'inventaire, de subversion, où l'enjeu de l'écriture devient aux instruments de libération. Important, transgression.
Les documents de la grenouille.
Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 ou sur le site internet radiogrenouille.com, ou simplement vous nous écoutez ici à Montevideo, car nous sommes donc en direct de Montevideo dans le cadre du festival actoral, et Mustapha Benfeddil est en train de parcourir le livre Le Point de vue de la mort, et je crois que va nous faire une lecture, un extrait.
J'ai entendu aussi ce qu'a dit l'imam. La prière du mort est interdite aux suicidés. Et la toilette mortuaire n'est pas faite pour ceux qui ont désespéré de la clémence du Très-Haut. De toute façon, appuyait-il, il n'y a rien à laver en lui. Son corps n'est plus que cendre et son visage n'est que ténèbres. Lui que le Créateur a gratifié d'une si belle allure. Je me suis farci son prêche en me pinçant le nez. À l'entendre, je serai Iblis en personne. Ne le touchez pas, ne le lavez pas, ne le pleurez pas, ne le veillez pas, ne le priez pas sur sa dépouille. Il périra 10 000 fois par le moyen qui s'est choisi et mijotera dans le feu jusqu'au jugement dernier. Ma foi, avec lui, j'aurai eu droit au jugement premier. Petite hors-d'œuvre lynchage avant le grand méchui eschatologique. Après les foukas du juge, les conneries du moufti. Le mec se demande, Balbala brûle-t-elle? Mais cheikh, si c'est haram de se brûler, alors autant interdire l'enfer que vous nous promettez à tout va. Et puis vous dites vous-même que le feu purifie. Justement, j'ai décidé de suivre une cure d'initiation. Initiation à la morale du feu. J'ai décidé d'être comestible, combustible, cru ou cuite, ma viande n'a que du bon. Je vous fais offrande de mes organes obscènes. Quant aux membres de la piété, j'en fais un joli fétu pour mieux m'embraser. Ainsi donc, vous allez m'interdire la prière du mort. J'allais justement vous conjurer de ne pas poser votre verbe sur ma dépouille. Je ne sais comment vous rétribuer pour cette conjonction des doutes. Je doute de votre barbe autant que vous de ma dignité. Je me déclare flamme, fourneau, géhenne et brasier. La servitude volontaire est un sport facile. Or, je n'aime que les joutes qui tuent. Je n'ai certes pas les cocardes d'un gladiateur, mais j'ai un sens aigu du sacrifice. Vous dites que je n'observe pas le carême. Détrompez-vous, je sais jeûner. Sauf que mon ramadan est militant. Je fais de la faim mon glaive quand vous faites de votre panse le réceptacle de vos copieuses ripailles. Et je boycotte le ciel pour ne pas dépendre des bandes fiantes des oiseaux. Je n'attends ni cigogne ni bourourou pour changer de signe. Je ne cherche ni bon ni mauvais augure. Je veux simplement souffrir à bon escient. Vos houris sont belles, mais plus belles encore mes illusions. Et je ne désespère pas de voir au moins l'une d'elles se transformer en hirondelle, même si elle fait seule le printemps. Au final, cher imam, je vous sais gré pour cette promotion. Vous m'avez érigé un bûcher quand je n'étais qu'une rumeur. Vous me prédisez l'enfer? Pourquoi? Là, on est où? Vous me faites rire, cheikh. Les châtiments divins pleuvent de partout au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et vous osez me prédire plus cruelle fin. Eh bien, s'il existe condition plus infâme, je me conduirai tête baissée au grand four crématoire divin. Permettez pour l'instant que je constate que c'est bien ici qu'habite l'Apocalypse. Alors, avant même que vous décrétiez mon âme impropre à la musulmation, je vous déclare impropre à la liberté.
Merci Mustapha Benfeddil. C'était un extrait du Point de vue de la mort. Quelques mots sur l'anti-livre. D'abord, ce titre, anti-livre.
Oui, ça s'appelle anti-livre, fragment de déchets littéraires. En fait, c'est... Justement, c'est un travail qui fait totalement écho à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure par rapport aux enjeux de l'écriture. Et en gros, c'est un travail dans lequel je questionne le rapport de l'écriture à deux pouvoirs, le pouvoir économique c'est-à-dire le marché. Et en l'occurrence, je questionne un signifiant très fort, très présent, dans, justement, dans, par rapport au marché, c'est le pilon, la mise au pilon des livres. Et puis, il y a le pouvoir politique. Et là, justement, vous parlez tout à l'heure de Djaout. J'aborde la question de ce que j'appelle le pilon politique, c'est-à-dire la destruction même de l'acte d'écrire à l'intérieur des esprits, que ce soit en amont, c'est-à-dire par tous les processus de production et de diffusion qui empêchent les livres d'exister, ou en aval, par la censure. Et puis, il y a cette forme totalement abjecte qui est la destruction des écrivains eux-mêmes, c'est-à-dire du corps des écrivains, par la liquidation physique. Et en l'occurrence, j'aborde la séquence des années 90 où il y a eu plein d'écrivains, d'artistes, de chanteurs algériens assassinés. Donc ça, c'est un peu le substrat politique, philosophique, mais techniquement, c'est un livre en fait qui est raconté par un livre. Donc c'est un livre, le narrateur lui-même, c'est un livre qui échoue au pilon et qui en amont, il va raconter un peu dans quelles conditions il a été écrit. C'est un peu pour dire que le travail que l'on fait en tant qu'auteur pour construire un objet littéraire, ce travail il se trouve foutu en l'air en l'espace de quelques secondes. Il faut savoir par exemple en France qu'il y a à peu près 100 millions de livres qui sont détruits chaque année, qui sont envoyés au pilon chaque année, qu'aujourd'hui la durée de vie d'un livre, d'une œuvre littéraire n'excède pas les 1 à 2 mois en librairie. Et donc ce sont ces processus-là que j'essaie d'aborder, mais là aussi ce n'est pas d'une manière, on va dire, catégorique, c'est un cheminement. Donc c'est pour ça que c'est une œuvre totalement fragmentaire, et c'est une écriture par flash qui consiste à casser justement, à casser une forme de narration dominante. Voilà.
Moustapha, un poète peut-il mourir ?
Je pense qu'il peut mourir de mille et une manières, oui. Peut-être la plus courante et la plus vulgaire, c'est que les poètes cessent d'être entendus. Donc, c'est justement toute la question que j'aborde, c'est-à-dire comment on conditionne la mort de la littérature dans les sociétés modernes.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.